L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec Davy dans le LEM du vendredi sur le 100.4 FM de Transistor. Merci d'être avec nous depuis notre QG au fou. Nous sommes bien en direct de midi jusqu'à 13h et puis, comme d'hab ce soir, à 18h c'est la rediffusion. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter, écouter la radio tout le temps sur internet à transistor.bzh et ce pour l'éternité. Alors l'éducation, la pédagogie, hein, c'est des sujets qui animent d'éternels débats pour savoir quelle est la meilleure méthodologie pour que nos garnements se comportent comme on le souhaite. Pour en avoir deux, je peux vous garantir que malheureusement, il y a zéro mode d'emploi à la livraison et que selon les modèles, c'est compliqué pour s'adapter et c'est même parfois fatigant. Bon, ce qui est sûr, c'est que les petites choses, eh ben, les gamins, ça les fascine toujours. Et quoi de mieux qu'une bonne balade en forêt pour amorcer, même développer un petit peu d'émancipation, tisser du lien et peut-être même calmer certaines tensions. Bon, plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut s'apprendre et c'est avec Anne Raffray de l'association C'est quoi ça de Crozon qui vient nous en toucher un mot. Bonjour Anne.
Bonjour David.
Comment ça va?
Ça va bien.
Bon, et vous êtes accompagnée cette fois par Tiffaine Gaillard de Brin d'Éveil. C'est une forest school, la première forest school thérapeutique et éducative française, qui est surtout spécialisée dans l'accompagnement des enfants neuro-atypiques. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, bah super. Bon, c'est à Pont-de-Buy. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis du coup.
C'est à Pont-de-Buy, c'est
voilà.
Ça, ouais.
Bon. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos assos? On commence par qui? Par Tiffaine? Par vous, Anne? Allez, par Anne.
Ok.
Allez, par
Anne. Donc, moi, l'association C'est quoi ça? À la base, c'est une asso qui a été créée pour... pour le festival de la non-violence éducative, voilà, c'est un peu notre l'accompagnement à la parentalité et essayer de sortir de nos schémas un peu violents, pas que violence physique, mais aussi violence psychologique, verbale. C'était un peu notre credo et par là-dessus, c'est ajouter un certain nombre d'activités. Et la dernière en date, c'est l'ouverture d'une forest school à Crozon.
Voilà, la forest school, exactement la même chose, peut-être pas même, ça se trouve exactement la même chose que Brin d'Éveil.
Je crois qu'à chaque fois, ça a ses particularités, de toute façon, on a nos signatures les unes et les autres. Je dis les unes, il y a des uns, mais on est quand même beaucoup des unes.
Hein.
Et puis moi, elle est ouverte à tous et toutes, je n'ai pas la spécificité de Tiffaine.
D'accord. Alors Tiffaine?
Oui, alors l'association Brin d'Éveil, effectivement, c'est une forest school. La particularité de la forest school, effectivement, c'est qu'on fait de l'accueil thérapeutique et éducatif. Du coup, ça ne se présente pas de la même façon. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation et l'équipe de Brin d'Éveil est composée d'éducateurs, de psychologues, etc., etc. Et on accueille des enfants parce qu'ils rencontrent des difficultés et ils sont accompagnés de manière hebdomadaire ou régulièrement sur une année ou sur plusieurs années, soit en individuel, soit en tout petit groupe avec des objectifs de travail spécifiques. C'est là où on se démarque un petit peu de la Forest School d'Anne, par exemple, où il n'y a pas les outils d'éducation spécialisés que moi je déploie en plus de la pédagogie par la nature.
Ok, alors il faut bien faire attention pour Brin d'Éveil, parce qu'il y a d'autres Brin d'Éveil qui existent, hein, c'est des crèches, il y en a notamment une à Bordeaux, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle bien de la Forest School Brin d'Éveil à Pont-de-Buy.
Parce qu'il y a un S à Brin. Ah, les crèches n'ont pas de S.
Ah d'accord.
Bah, c'est un seul Brin dans les crèches.
J'aime pas fait gaffe. Bon, alors, quand Anne m'a parlé un petit peu de tout ça, de la non-violence, de la pédagogie, de l'éducation par la non-violence, je veux dire, la pédagogie par la non-violence, tout ça, j'avoue, je me suis posé quand même pas mal de questions, et puis en lisant des informations ici et là sur ce que vous faites au niveau de la Forest School, eh ben, y a une expression bien connue qui est venue comme ça quand on parle de se ressourcer. Alors, je vous pose la question, c'est quoi cette expression bien connue selon vous? Allez, un petit quiz comme ça, vite fait, à midi 4.
Quand on parle de se ressourcer.
Oui, il y a une expression bien connue. Non? Ça ne vous parle pas? Ça ne vous dit rien? Allez, 3, 2, 1. J'ai perdu Anne, elle me regarde avec des gros yeux.
on est buggés tous les deux.
Eh ben, l'expression, c'est se mettre au vert. Moi, j'ai pensé à cette expression-là, se mettre au vert.
Okay.
Et en regardant bien, moi, j'ai l'impression que l'utilisation de cette expression, en tout cas qui est donnée par mes congénères, bah, j'ai l'impression qu'elle n'a plus vraiment le même sens que l'expression que j'entendais quand moi j'étais plus jeune par mes parents. Mais pour moi, quand mes parents disaient se mettre au vert, ça veut dire bon allez, on va dehors, on va prendre l'air, on sort de la maison, machin. Mais j'ai l'impression que moi en 2025, se mettre au vert, ça veut dire glander devant une série en déroulant des trucs sur son smartphone.
C'est pas fou.
Plutôt qu'à faire un truc dehors. Bon, vous en pensez, je vous fais rire. Vous en pensez quoi du coup?
Ouais, c'est vrai, on l'utilise pas tellement en fait, cette expression maintenant, non? On est un peu dinosaure si on s'en sort.
J'ai l'impression
hein
qu'elle a eu son apogée, genre il y a une dizaine d'années, et qu'effectivement maintenant, c'est un peu has-been, effectivement. On l'entend pas
trop. Hein. Mais j'ai une ado, moi, à donc. Tort.
Ouais, alors du coup, vous en pensez quoi? Se mettre ouvert, se mettre. Tout ça, vous en. En 2025, ça vous parle ou pas?
Ah bah, plus que jamais, je crois.
Ouais.
Plus que jamais. On est tellement dans des boîtes tout le temps. Et jolie ta boîte, Davy, mais pas toute la journée.
Et bah selon vous, selon votre expérience avec la Forest School et avec les gens que vous rencontrez, est-ce que vous avez des raisons, vous, qui vous sont données pour lesquelles on n'a plus aucun contact avec la nature? C'est ça un peu l'expression à la base. Hein. Se mettre au vert, ça veut dire aller dehors, faire du jardin, faire des trucs. Mais moi, j'ai l'impression que plus personne ne fait ça. Quoi.
Ah, je pense que les écrans en tout genre sont quand même... Enfin, participe au fait qu'on ait de plus en plus de choses à faire en étant assis sur une chaise et avec un mode de vie un peu plus sédentaire. Peut-être qu'on a beaucoup plus de choses à faire. Enfin, tu vois, les activités sont... Il y a beaucoup plus de sollicitations. Après, il y a aussi les modes de vie, tu vois, qui font qu'on va moins à pied à l'école, en vélo à l'école. Oui. On prend moins le temps.
Il y a moins de possibilités aussi d'accès aussi à la nature. Parce que nous, on a grandi... Enfin, moi... En tout cas, j'ai grandi à une époque où on pouvait aller à pied faire 1, 2, 3 kilomètres sans que nos parents s'inquiètent. Aujourd'hui, c'est une réalité qui, moi en tant que maman, je t'avoue que même si je veux que ma fille soit dehors, vu la fréquentation des routes, etc., c'est moins facile de se sentir serein en laissant nos enfants partir faire l'école buissonnière et à l'aventure dehors tout seul. Beaucoup moins. Et du coup, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins confortable pour les parents, c'est beaucoup moins confortable pour les adultes. Il y a peu d'espace, finalement, à part les parcs aménagés, où on peut vraiment aller se sentir de vadrouiller comme ça. Il y a beaucoup de propriétés privées. Et du coup, ça limite beaucoup les ouvertures pour ce genre d'expérience pour nos enfants. En tout cas, c'est assez clair. Et alors moi, dans le cas de Brin d'Éveil, clairement, de toute façon, c'est des enfants qui passent de prise en charge en prise en charge. Et une fois arrivés à la maison, il y a peu de temps et d'espace pour aller trouver ça. Donc c'est quasi inexistant, effectivement.
Alors ça veut dire quoi la pédagogie par la nature et c'est quoi les principes fondamentaux?
Alors les principes fondamentaux, on part sur les sept points clés. Hein.
Allez, on se fait un quiz. Je veux faire un petit historique déjà.
Vas-y.
Alors la pédagogie par la nature, c'est une pédagogie qui date des années 70, qui vient notamment surtout des pays scandinaves, anglo-saxons, Canada, Pays-Bas, Danemark, tout ça. Et qui s'est nourri à l'époque de toutes les pédagogies alternatives, l'éducation populaire, etc., pour ancrer toutes ces nouvelles connaissances du développement de l'enfant et de la relation à l'enfant et de la pédagogie avec le fait d'être en extérieur et de se développer dans le milieu que j'aurais tendance à décrire comme naturel de l'être humain. Et du coup, à cette époque-là, s'est construite cette pédagogie-là. Et depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études spécifiques sur cette manière d'accompagner les enfants dans la nature. Et du coup, au fil du temps, on a pu la définir un peu plus. Et nous, en France, on a choisi notamment de l'expliciter par le biais des sept points clés. Donc, on peut te parler des sept points clés qui définissent, enfin, qui permettent de comprendre un peu plus précisément quels sont les repères pour dire qu'on est en pédagogie par la nature.
On se dit, c'est quoi ces sept points-là?
Alors, on a le jeu libre. Ouais. C'est quand même un élément hyper important de pas toujours être dans des activités guidées avec des outils qui permettent qu'une utilisation, tu vois, mais de que ce soit un lieu inspirant, c'est un autre point clé pour justement favoriser l'imagination et la liberté dans le jeu. Avec tout ça, avec une prise de risque mesurée. Donc ça, c'est le troisième point clé qui fait que, ok, on est dans un milieu naturel, mais nous, pédagogues, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que les risques soient, si on les fait prendre, c'est qu'ils ont un bénéfice. Et on essaye de faire en sorte que le risque il soit moindre, qu'il n'y ait pas de danger mort, par exemple. Hein. Donc on veille à tout ça, et c'est assez réfléchi. Pour ça, il faut être formé. Donc ça, c'est, je ne sais plus, on arrive à combien, quatrième ?
L'adulte...
La présence d'un adulte formé, ouais, sur le lieu.
La posture et la formation.
Voilà. Moi, un qui m'est cher aussi, c'est le temps long et la récurrence, tu vois.
Alors ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire, c'est pas de la conso. Tu vois, tu n'y vas pas comme tu vas à l'acrobranche, par exemple. C'est vraiment une activité, pour moi, en tous les cas, tu t'inscris à l'année, et c'est important de fréquenter le lieu à toutes les saisons et de voir le lieu évoluer, de voir cet environnement évoluer en fonction des saisons. Et on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Tu vois, il y a ce truc-là de réussir à sortir. Je pense que c'est plus facile pour les gens de sortir instinctivement quand il fait beau, quand il commence à y avoir un peu de vent et de la pluie. Si t'es pas engagé dans une activité comme ça, c'est plus difficile de le faire à titre personnel. Oui. Donc là, le temps long, c'est aussi qu'on n'a pas, ça amène sur un autre des points clés qui est le processus, pas le résultat. Tu vois, on n'a pas d'objectif de résultat, de réalisation d'un truc bien fini, bien fait. L'important, c'est le chemin pour y arriver. Tu vois, et pour y arriver, faut prendre son temps. C'est pas en deux dimanches que t'arrives quelque part, quoi.
Je rebondis un peu du coup par rapport à ce que dit Anne pour répondre sur la récurrence et le temps long. En fait, il y a pas mal d'études internationales sur cette question-là, sur à quel point le fait de revenir toujours au même endroit, plusieurs fois dans l'année, plusieurs années, est un levier important dans la connexion vécue à la nature, parce qu'il se crée un vrai lien émotionnel. Nous, les enfants qu'on reçoit, moi, ça fait 7 ans que je travaille en pédagogie par la nature, 8, on me corrigera. Les enfants, enfin, le lieu est vraiment investi comme étant leur forest school, et chaque arbre, les enfants se créent un lien vraiment intime avec l'espace, vraiment, voient évoluer, se connectent à toutes les météos, les temps, et créent beaucoup de souvenirs, et ce lien-là est vraiment un levier d'évolution importante pour les enfants dans leur rapport à eux-mêmes, aux autres et à la nature.
Alors, on parle de développement holistique pour les enfants. C'est quoi ça, le développement holistique ? J'ai pas voulu rechercher, tiens.
C'est quoi ? Je te crois pas.
Non, mais c'est vrai. J'ai pas cherché. Non, mais c'est vrai. J'ai
ceci
vraiment
n'est
pas,
pas
cherché.
Un piège.
C'est pas un piège pour le coup. Non, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ?
Moi, je peux te définir le terme holistique déjà. Le terme holistique, il parle du fait de prendre l'enfant ou la personne, parce qu'on n'accueille pas que des enfants finalement, on accueille aussi des parents et des familles, là où ils en sont dans leur globalité. De les rejoindre là où ils en sont et dans leur globalité. Et c'est pour ça que c'est une pédagogie qui est nourrie de plein d'approches, finalement. On essaye de pas se centrer que sur le développement des compétences sociales, ouais, notamment. C'est vraiment aller rencontrer la personne et avancer avec elle à partir de ce qu'elle est aujourd'hui.
Et surtout sans la juger. D'accord.
Parce que le septième point clé, c'était l'enfant au cœur des apprentissages.
Merci, il fallait pas l'oublier, celui-là. C'est mon préféré à moi.
Alors, pourquoi pas la ville ? C'est quoi l'avantage de la nature, d'un cadre naturel plutôt que d'un cadre urbain ?
Je ne sais pas si ça s'oppose, parce qu'il y en a qui font de la pédagogie par la nature en ville. Alors,
ça, c'est
bravo.
Possible aussi.
Oui, parce que moi, je crois que j'y arriverai pas, mais parce que je suis pas citadine, mais bien sûr, il y en a plein qui le font.
Ouais.
A priori, le moindre petit fossé, espace avec un arbre et un petit peu de terre, si tu as la chance d'être dans un endroit qui n'est pas 100% bétonné, tu peux réussir à faire des choses. Alors, c'est peut-être moins varié.
Oui,
que
c'est ce que j'allais
quand
dire.
T'as
pour
une
moi,
forêt.
La limite, c'est la richesse des possibilités. Parce que clairement, un enfant comme nous, grands adultes, là, dans une forêt, par exemple, l'éventail et le nuancier de choses possibles à l'imaginaire d'un enfant en termes d'exploration, en termes de création, en termes de stimulation sensorielle. Elle est tellement vaste. Moi, j'ai entre guillemets la malchance d'avoir une forest school qui n'est pas une forêt. Et je vois déjà la différence avec quand je travaille chez ma collègue qui, pour le coup, elle a une forêt en termes d'exploration. Alors, c'est bien parce que du coup, les enfants, ils sont obligés d'être plus créatifs, de développer plus de jeux, mais en termes de possibilités d'exploration sensorielle et créative, parfois, je suis obligée d'amener des choses de l'extérieur parce qu'il y a un petit peu moins. J'ai un peu moins d'arbres où grimper, j'ai un peu moins de bâtons pour construire des vraies belles cabanes, tu vois. Et ça, c'est des choses qui reviennent assez naturellement. Je pense qu'on a inscrit en nous profondément le jeu naturel, le jeu libre en nature, finalement, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Sur du béton, eh ben, y a quand même vachement moins de possibles.
Alors, on l'a un petit peu tous en nous. Moi, je suis animateur aussi pour du jeu de société. Puis j'aperçois qu'il y a un peu le même, un peu pareil. Je trouve qu'avec les enfants, c'est toujours super facile de rentrer dans ce genre de jeu. Mais avec les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être pas tous, hein, okay. mais moi, de ce que je vois, faire jouer les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, comment on fait? C'est quoi les clés, justement, pour essayer de désengorger des gens qui viennent vous voir, qui vous exposent un petit peu leur, là où ils en sont? Et comment vous dites, ok, on va commencer par ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche?
Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je suis formatrice aussi en pédagogie par la nature. Et c'est vrai que quand j'accompagne les futurs pédagogues par la nature, un des sujets qui revient souvent, c'est finalement, c'est presque plus facile d'accompagner les enfants quand ils n'ont pas leurs adultes avec eux. Parce qu'effectivement, les enfants, ils ont encore accès à leur spontanéité et leur exploration. Et les adultes ont parfois un peu perdu leur enfant intérieur de vue. Et c'est tout notre travail de les reconnecter à cette part-là d'eux-mêmes, justement.
Alors moi, je dis enterrer leur âme d'enfant au fond des toilettes du jardin.
Oh, bah, c'est comme ça que c'est ce que je leur dis. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que les adultes. Et pourquoi, selon vous?
Parce que je pense qu'on perd notre capacité à s'émerveiller déjà en grandissant.
La société fait qu'on perd ça.
Je pense que si on ne cultive pas, on est de plus en plus insatisfait ou exigeant pour s'émerveiller de quelque chose. Notre pouvoir imaginaire aussi, si tu le travailles en ayant des activités créatives, mais sinon c'est quand même quelque chose qui est très présent dans l'enfance et qui a tendance à s'effacer un petit peu en grandissant. Et nous, un des objectifs, moi je fais des ateliers famille et j'adore ça justement pour cette raison, parce que je trouve que au contraire, moi ce que je constate c'est que les parents, en étant dans un contexte où de toute façon ils sont hors de tous leurs occupations, donc ils peuvent pas faire autre chose, ils sont là pendant 3 heures, il y a pas le téléphone, il y a pas, tu vois, t'as pas de diversion.
Ça vous coupez ça, le téléphone, c'est rideau pendant les activités?
Ouais, alors moi je l'ai pas dit aussi clairement que ça, mais
non, mais ça coule assez de source.
Mais ouais, ça se fait un peu.
Ça ferait bizarre de les faire sortir. Ouais.
Ça peut arriver, hein, mais ouais. Bon, voilà.
Pour une photo ou deux de temps en temps.
Mais et je trouve que, enfin moi, le fait que nous, enfin moi je joue beaucoup, moi j'adore ça jouer. Et le fait que je joue comme une gamine, ben en fait je trouve que ça désinhibe aussi et ils ont super envie de partager des choses avec leurs enfants et à la fin de la journée, enfin avoir pris ce temps de qualité avec ses enfants et c'est un endroit aussi, je trouve, le fait d'être dehors, t'as plus du tout la pollution sonore par exemple, tu vois, c'est plus, alors peut-être que j'ai pas utilisé le bon mot, mais tu disais en introduction, tu vois, ouais ça, mais tu disais aussi en introduction qu'être parent c'est un job sans mode d'emploi à l'arrivée et que parfois c'est hyper fatigant.
Oui.
Et ce qui participe aussi, à mon sens, à la fatigue, c'est d'être en intérieur. Parce qu'être avec des enfants en intérieur, c'est pas la même énergie que dehors. Dehors, y a, du coup, si les enfants crient, même si toi, tu peux crier, en fait, ça fait pas du tout la même chose, ça réverbère pas du tout de la même manière sur les autres. Et tu peux t'autoriser des choses dehors qui sont beaucoup plus libératrice, quoi. Tu vois.
Alors, on a tendance à croire que la pédagogie, du coup, pour la nature, c'est pour les enfants, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus bénéfique pour les adultes.
D'autant.
Oh, d'autant. Ouais. En fait, c'est bénéfique pour les êtres humains.
C'est exactement.
Tout court.
Ouais, tout court. Tout court. Sauf que je suis pas sûre que les adultes viendraient s'ils avaient pas le prétexte de leurs enfants.
Ah, pourtant, on a des demandes. Enfin, moi, je sais que la Forest School a été déjà. Les deux Forest School où je travaille, on a déjà été sollicités de nombreuses fois d'adultes qui venaient avec leurs enfants et qui nous demandaient bon. Et oui. Du coup, c'est quand les créneaux adultes?
C'est ça,
parce
une
que
fois
nous
qu'ils
aussi,
connaissent.
On aimerait
ouais,
bien,
tout à fait.
C'est bien d'être avec nos enfants, mais on aimerait pouvoir jouer librement aussi sans
un
nos
petit
enfants.
Stage que les adultes.
C'est quoi, par curiosité, c'est quoi leur raison pour venir tout seul, sans les enfants
S'autoriser la même chose que leurs enfants, c'est-à-dire un créneau de 2-3 heures où ils peuvent jouer librement, c'est vraiment ça. Hein.
Ça veut dire que devant leurs enfants, ils font pas ça, ils gardent leur une espèce de posture de parent. Est-ce que c'est mal d'être un enfant quand on est un parent, en fait?
Non, moi, je dirais que je pense qu'il. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est qu'ils se libèrent en faisant des choses. Mais tu vois, sur un atelier de 3 heures,
chose,
par
quoi.
Exemple, voilà, il y a un moment où ils vont peut-être faire quelque chose pour eux, mais ils y accompagnent leur gamin quand même, tu vois. Donc, si le gamin, son envie, il est d'aller au ruisseau ou si t'as la chance d'avoir
c'est
ça.
C'est pas possible de finir le super bricolage.
Et que toi, voilà, t'es, voilà, exactement. Donc, il y a un petit peu de frustration.
C'est vrai.
Ouais. Voilà, t'as pas la même liberté que. Mais bon, après, il y en a qui vont construire des mini cabanes pendant 3 heures avec leur gamin et qui vont être sur le même trip. Et là, ça va être un super moment. Mais ouais, c'est vrai que des fois, juste sans l'enfant, bah, ça permet de pouvoir avoir libre cours à son imagination et laisser sa créativité s'exprimer, quoi.
Ouais, c'est rigolo. Bon, alors, quel type d'activité on fait dans une forest school?
Eh bien, c'est ce qu'on disait. Un atelier forest school, c'est un atelier mené par l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est vraiment au centre.
Ah, c'est pour ça, en fait, qu'ils ne viennent pas les adultes, parce que c'est les enfants qui dirigent tout.
Ou de l'adulte. C'est les participants qui mènent l'atelier. Du coup, ça peut être très, très, très varié. Ça dépend si c'est du groupe ou si c'est de l'individuel. Moi, tu vois, dans le cadre des accompagnements individuels, j'ai pas deux séances pareilles et j'ai pas deux. C'est jamais la même chose, puisqu'en fonction de l'enfant qui est là, de ce qui va être sa motivation intrinsèque à ce moment-là, et qui il est, ça va de aller se rouler dans la vase jusqu'à faire de l'herboristerie ou de la sculpture sur bois. Tu vois, c'est très varié, ça dépend avec quoi ils viennent. Et sur des groupes, c'est la même chose. Les enfants vont suivre leur motivation.
Ouais. Tu fais des propositions,
et nous, on va préparer l'espace.
Elles sont facultatives, voilà, c'est ça.
Et comment on accompagne des enfants? Alors, je reprends le terme qui a été donné, neuroatypique. Ha.
Alors, c'est une
un
question
métier,
complexe,
monsieur.
Parce que moi, je suis éducatrice.
C'est dommage, parce que plus le temps.
C'est ça, c'est la question tard, là.
À 20 heures. Ah bah, tant pis, hein.
Ça fait 14 ans que je travaille en accompagnement auprès d'enfants autistes et TDAH. Du coup, effectivement, là, si tu me lances là-dessus, on peut refaire une demi-heure. Si tu veux.
Bah là, on a envie de faire. Du coup, on en parle.
Donc très rapidement, moi, je suis formée spécifiquement à l'accompagnement un pour un d'enfants neuroatypiques et du coup, j'ai plein d'outils qui vont de l'analyse comportementale jusque à la communication alternative, en passant par l'intégration sensorielle. Et c'est des outils de lecture et d'enrichissement que j'utilise sur la Forest School, en fait. Ma compréhension, enfin l'évaluation de leurs difficultés et les outils qui les permettent d'avancer sur leurs difficultés, tout en ne se rendant compte de rien parce que eux ils jouent juste en forêt en fait avec moi.
Ok. Et puis on a encore un petit peu le temps. Du coup, on parle un petit peu des parents. Ils sont là du coup avec les enfants, mais c'est quoi leur rôle?
Pas toujours.
On a des ateliers parents-enfants, ouais. Des ateliers enfants-enfants.
C'est quoi leur rôle aux parents pendant un atelier? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste là en tant qu'observateurs ou bien
ils participent réellement. Ouais. Ils participent. En général, on commence quand même toujours un atelier de la même manière, en faisant un cercle de présentation de comment je vais aujourd'hui, etc. Et on le termine aussi en général l'atelier. De cette manière-là, en essayant de partager son petit moment précieux de l'après-midi. Et donc, ils sont comme leurs enfants, ils font la même chose. Ils font la même chose, si ce n'est qu'ils ont la responsabilité de leur enfant. Oui, voilà. Au-delà de la responsabilité, c'est aussi un endroit où tu partages un temps avec ton enfant. Donc, voilà.
Et c'est là où on a pas mal de rôles, parce qu'on a parlé de prise de risque mesurée.
Oui.
Et effectivement, c'est probablement un des points où on a le plus à accompagner les adultes. Parce que nos peurs, on a tous nos peurs, on a tous nos histoires familiales et ce qui a pu nous arriver dans notre vie. Et que pour certains adultes, ça peut être anxiogène d'avoir un enfant trempé en plein mois de décembre. Ça peut être anxiogène de voir son enfant grimper à l'arbre.
Jouer dans un ruisseau.
Voilà.
Ah oui. On n'a pas
se
tous les curseurs
quand il fait 5 degrés.
Faire du feu aussi, j'ai vu que vous faisiez ça.
Feu.
Ah, ça, c'est vraiment le truc qui doit rendre dingue tous les parents. On va faire du feu avec votre enfant.
Pas tant que ça, tu vois, j'ai jamais vu de résistance sur l'allumage de feu.
Il y en a peut-être plus sur être dans l'eau.
Ouais, tu vas prendre froid. Est beaucoup plus anxiogène pour beaucoup de parents. Tu vois,
j'aurais jamais cru.
Grimper, c'est bon, pas mal.
Est-ce que vous avez, s'il n'y a pas d'obligation de résultat dans la Forest School, est-ce que vous avez quand même des succès? Est-ce que vous avez des exemples de succès de votre Forest School? Est-ce que
à l'appel.
C'est vrai.
Ouais, moi je crois que, enfin, ce qui est important, je trouve, c'est vraiment ce côté approche sensorielle du milieu, et que tu vois qu'au niveau, vu qu'ils sont tout le temps en mouvement, il y a quand même une connexion entre ce que je ressens dans mon corps et ce que je ressens et mes émotions, quoi. Il y a vraiment ce truc-là d'intégration de ces sensations corporelles, et du coup, Tiffaine, t'as beaucoup plus d'exemples que moi parce que t'as beaucoup plus d'expérience que moi en Forest School, mais j'ai l'impression qu'il y a pas besoin d'avoir beaucoup d'années de recul pour constater que assez vite, en fait, tu vois le comportement des enfants évoluer sur comment je me patouille dans la boue, comment je m'autorise, comment je vais vers les autres ou pas, à plein d'endroits, il y a de l'évolution.
Ouais, et puis des parents aussi, j'imagine.
Oui, alors déjà, il faut savoir que c'est très, très documenté. Il y a plein d'études qui montrent à quel point cette pédagogie a un impact sur les compétences sociales, le rapport à soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et moi, j'ai 5 ans sur la Forest School et ma particularité, c'est que le processus, pas le résultat, mais je suis éducatrice, donc on attend de moi du résultat quand même. Et du coup, c'est évalué. Enfin, tous mes enfants j'évalue comment ils sont quand ils arrivent et comment ils sont quand ils ressortent. Et du coup, je peux témoigner qu'ils évoluent très, très positivement et parfois de manière vraiment surprenante avec ce cadre de liberté accompagnée où ils vont se trouver eux-mêmes et tout leur potentiel.
Eh bien, c'est super cool. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues, Anne Raffray et Tiffaine Gaillard.
Merci.
Merci d'avoir participé à l'émission.